Théologie mystique, Père Philippe, Saint Jodard, 31 octobre 84.
La dernière fois, j'ai essayé de vous donner rapidement les aspects d'anéantissement et les initiatives de Jésus dans la dernière semaine. Alors nous allons reprendre maintenant, progressivement et lentement, cette dernière semaine, en comprenant toujours, si vous voulez, comment il y a pour nous, à travers toute cette description, cette théologie que nous donne Saint Jean, une lumière pour comprendre ce que sans doute l'Église doit vivre maintenant. Dans la dernière semaine, Jésus ne condamne plus. C'est très significatif. Il répond, mais il ne condamne plus, ce n'est pas la même chose. Jésus ne condamne plus, alors que précédemment, il y a des condamnations fortes. Chapitre 8 dans Saint Jean, « Votre Père, c'est le démon ». C'est la condamnation la plus forte qui soit, celle-là. À partir du chapitre 13, Jésus ne condamne plus. Alors, ce sont des petits signes, vous voyez, que peut-être l'Église, dans le dernier concile, n'a condamné personne. C'est très rare, les conciles où l'Église n'a condamné personne, hein, cherchez. Parce qu'ordinairement, le concile, c'est en face d'une hérésie, et face à l'hérésie, l'Église condamne. Et l'Église n'a pas condamné. Alors, c'est sans doute tout un esprit particulier que l'Esprit Saint veut donner à l'Église. Et c'est cet esprit particulier que nous devons découvrir, si nous voulons être dociles à l'Esprit Saint. Ce n'est pas le théologien qui conduit l'Église, hein. C'est l'Esprit, ce n'est pas le théologien qui conduit l'Église, c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église, et le théologien doit comprendre cette économie divine. Il doit essayer de saisir pourquoi, puisque c'est toujours dans une sagesse divine que l'Église est conduite par l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint veut faire comprendre certains aspects que nous ne comprendrions pas autrement. Alors il faut, à travers tout ce que nous allons essayer de comprendre, voir ce que ça signifie pour nous. Et toutes les initiatives du Christ, je crois, doivent nous donner comme une théologie du renouveau. C'est au moment où, de fait, le démon apparaît le plus victorieux, qu'il y a en même temps une reprise plus forte de l'Esprit Saint. Et ça, je crois que c'est tout le temps comme ça. Chaque fois que le démon attaque particulièrement tel ou tel point dans l'Église, on doit comprendre que l'Esprit Saint, qui se sert du démon, le démon n'est pas extrinsèque à la conduite de l'Église, hein. L'Esprit Saint s'en sert. Il faut donc comprendre à travers ces attaques plus violentes du démon, comment l'Esprit Saint veut s'en servir pour nous faire mieux comprendre certains aspects qu'il veut renouveler en nous, qu'il veut redonner comme quelque chose que nous n'avons pas suffisamment saisi. Et c'est assez net, si vous voulez, quand on regarde certaines attaques du démon par rapport à la fécondité, fécondité au niveau biologique, procréation, fécondité du côté sacerdotal, le grand mystère du sacerdoce du Christ. On voit bien que l'Esprit Saint veut redonner à la famille un nouvel éclat, une nouvelle profondeur. Et il veut que nous creusions plus profondément le mystère du sacerdoce de Jésus. et par le fait même aussi le mystère de Marie. Dans la mesure où Marie est particulièrement oubliée ou attaquée, l'Esprit-Saint veut nous faire comprendre davantage les liens entre l'Esprit-Saint et Marie. Et ainsi de suite, vous voyez, ce serait intéressant de bien saisir tous ces aspects d'opposition devant lesquels nous nous trouvons. Il ne faut pas être obnubilé par ces attaques, mais il faut les voir. Ça fait partie, je crois, de l'intelligence que nous devons avoir au niveau de la foi. Alors, je commence le chapitre 13, même si nous l'avions déjà vu, que c'est un passage que nous connaissons bien, mais je crois que c'est bon de le revoir tout le temps. C'est très important, et c'est très important pour nous, ce grand passage du lavement des pieds. C'est le point de départ de la dernière semaine, puisque de fait, la dernière semaine commence avec l'onction de Béthanie, et il y a ces deux repas, le lavement des pieds et l'onction de Béthanie. Jésus donc, chapitre 12, « Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait relevé d'entre les morts. » C'est l'expression très belle, n'est-ce pas, de la résurrection. Même pour Jésus, il reprend son âme, relevé d'entre les morts. On lui fit donc là un dîner, et Marie servait, et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. On souligne la présence de Lazare, c'est normal, puisque c'est en son honneur d'une certaine manière, et en l'honneur de Jésus, qui l'a ressuscité. Marie donc, prenant une livre de parfum de vrai nard d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc, l'initiative de Marie, c'est ça qu'on montre. Vous voyez, exactement comme à Cana, qu'est-ce que Jean met en pleine lumière? Le manque de vin. Ici, le théologien saisit tout de suite ce qui va être le point particulier dans ce repas d'action de grâce. C'est un repas d'action de grâce, un repas où on remercie Jésus. Quelle est la pointe de l'action de grâce? C'est pas le très bon repas. Il n'y a pas manqué de vin, là. Sûrement pas. On est à Béthanie. Mais c'est Marie qui fait ce geste du parfum. Et je crois que c'est bien de mettre en parallèle Cana et l'onction de Béthanie. Des deux côtés, on est un peu, vous voyez, dans le mystère de la surabondance, le vin, et ici, le parfum. C'est de la surabondance. Pas du même ordre, mais dans deux aspects différents. Ce parfum que Marie gardait, alors tout dépend qui est cette Marie. Alors laissez les exégètes chercher ça, pour quand ils entreront au ciel, ils comprendront. Parce que c'est bien difficile, hein, vous le savez bien, tout ce problème de Marie. C'est très intéressant, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, il faut regarder les pères de l'Église, il faut regarder les exégètes d'aujourd'hui, et essayer d'écouter chacun de ces exégètes, qui ont des points de vue assez différents les uns des autres. J'ai beaucoup, beaucoup discuté dans le temps avec le père Braun. Avec lui, on pouvait discuter, c'était merveilleux. Mais c'était très intéressant, parce qu'il s'était beaucoup intéressé à la question. Et pour lui, ça avait une certaine importance. Et vous voyez, vous retrouvez Luc et Jean. Et là aussi, c'est intéressant. Luc et Jean qui sont autour de ces maris. Qu'est-ce que ça veut dire, cette... Alors, est-ce que c'est la pécheresse convertie? Cette pécheresse devait avoir des réserves de parfum. Et donc, quand elle s'était convertie, elle avait mis ça, n'est-ce pas, dans un coin particulier, et subitement, le Saint-Esprit lui fait comprendre que peut-être, c'est le jour. On voit très bien tout ça. Saint Jean ne dit pas, mais il souligne ce petit détail merveilleux. C'est merveilleux, ça, pour Jésus. On donne à Jésus ce qui, peut-être, flatte le plus notre sensibilité. C'est l'offrir à Jésus. Qu'est-ce qui flatte le plus notre sensibilité? Au sens noble, au sens grand, au sens esthétique. Qu'est-ce qui flatte le plus notre sensibilité? La sensibilité de Marie. Ce qu'elle aimait le plus avant. Évidemment, il y a eu un passage, un transfert au niveau de son amour. Le passage des parfums jusqu'à Jésus, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et alors, il faut à ce moment-là faire que tout ce qui était avant soit rendu à Jésus. C'est sûr qu'il y a quelque chose comme cela. Et au fond, chaque fois que nous nous convertissons, Jésus réclame quelque chose d'analogue. On doit toujours penser à ça. Qu'est-ce que Jésus nous demande de mettre à ses pieds? De mettre à ses pieds. Quel est notre geste d'action de grâce? Chaque fois que nous vivons de l'action de grâce, et puis des moments particuliers où nous remercions Dieu de toutes les grâces qu'il nous a données et qu'il est là. Alors, quel est le geste particulier que nous devons faire pour manifester notre lien spécial avec Jésus, notre lien d'amour? Marie donc prenant une livre de parfum de vrai nard, d'un grand prix. Donc Marie savait très bien la valeur de ce parfum. Oignit les pieds de Jésus. Et les essuya et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Tout le monde est dans la joie. C'est vrai, l'action de grâce nous met dans la joie. Sauf Judas. Alors, depuis le chapitre 6, au milieu de vous, il y a un démon. Jean s'est tué complètement sur Judas. Judas réapparaît. Très important. La dernière semaine, Judas réapparaît. Et Judas prend un rôle important. Mais un rôle qui brise. Le démon, c'est celui qui fait la zizanie. Il ne peut pas accepter la joie et l'action de grâce. Il ne peut pas, parce qu'il n'aime plus. Alors, dès qu'il voit l'action de grâce, c'est-à-dire un amour qui s'exprime, et qui s'exprime peut-être d'une façon maladroite, mais qui s'exprime d'une façon étonnante, de surabondance, il ne peut pas supporter ça. C'est insupportable de voir une femme qui aime pour quelqu'un comme Judas. Parce qu'elle est excessive. Normalement, une femme qui aime est excessive. Heureusement, du reste. C'est vraiment, je ne sais pas, quand il y aurait la ferveur. N'oubliez pas ce que dit saint Thomas, la ferveur. Qu'est-ce que c'est que la ferveur? C'est l'eau qui bout. Alors ça dépasse les limites de la casserole. Almodum recipientis, le mode du récipient, c'est très bien. Alors on voit très bien qu'en étant sans froid, on a chacun sa modalité et on suit son conditionnement. Tandis qu'au contraire, dès qu'il y a la ferveur, la finalité dépasse complètement les limites de la casserole. Complètement. C'est quelque chose qui dépasse. C'est tellement beau, ça, de voir ce dépassement de tout ce que représente le conditionnement habituel devant lequel on est tellement esclave de ça. Alors Judas ne peut pas supporter ça. penser, parce que Claudel réussit très bien les personnages négatifs ordinairement. Eh bien, le Judas de Claudel est très bon. C'est très curieux, vous avez toujours remarqué ça. Quand Claudel peint les saints, c'est complètement à côté. Mais quand Claudel peint les gens qui sont dans, repliés sur eux-mêmes, plein de jalousie, plein d'aigreur, alors ça c'est merveilleux. Ça, c'est extraordinairement ça. Il saisit ça très très bien. Alors on voit très bien ici, ça. Le Judas de Claudel, il est très intéressant le Judas de Claudel. Il faut le lire de temps en temps. La manière dont Claudel voit Judas, alors il voit, on l'a dit, celui qu'il essayait de viser, le rationaliste, et puis en même temps l'artiste qui essayait de tout ramener à lui-même. Judas l'Iscariote, un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers ?» qu'on aurait donné à des pauvres. Il faut demander au Saint-Esprit l'intonation. Il interroge Jésus. Pourquoi ? La finalité de ce parfum. La finalité, elle est vaine pour lui. Jeter ça au pied de Jésus, c'est perdu. Un parfum, c'est fait pour être vendu. Dans la mentalité de Judas. Tout ce qui est superflu, c'est pour être vendu. C'est du superflu. Vous voyez la thèse de la justice. Il plaide la justice, Judas. Comme le démon. Le démon plaide la justice. C'est très curieux. Une fausse justice. Mais il plaide la justice. Une justice qui n'est plus finalisée par l'amour, qui ne provient pas de l'amour et qui n'est pas finalisée par l'amour. Une justice en opposition vis-à-vis de la miséricorde ou en opposition vis-à-vis de la surabondance de l'amour. Il plaide pour cette justice-là, une justice froide, une justice purement rationnelle. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers ? Alors, vous comprenez bien ce que ça représente. Hein ? Le denier, le salaire d'une journée de travail. Donc, 300 jours de travail. Hein ? 300 deniers. Il a bien évalué le prix. C'est la seule chose qui l'intéressait. L'intention profonde de Marie, de cette femme, non. Il voit le gâchis. Le gâchis de l'action de grâce. Vous perdez une demi-heure. Alors que la soupe est chaude. Vous perdez une demi-heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Perdre du temps pour Dieu. C'est ça la prière. Alors qu'on pourrait l'employer pour des choses très importantes. Brûler du temps pour Dieu. C'est très significatif parce que c'est très enraciné en nous, vous savez ça. Hein. Faut pas dire, oh, Judas, j'ai rien à voir avec lui. Oh là là. On a tous quelque chose à voir avec Judas, vous savez. Et on reconnaît très bien certaines attitudes qu'on pourrait très facilement avoir. Grâce à Dieu, nous espérons bien l'avoir dépassé, mais il se tait longtemps, Judas, hein, du chapitre 6 au chapitre 12. Il attend le bon moment. Le démon circuit querens comme dévorette. Hein. Il est là au bon moment pour bondir, pour dévorer sa proie. Cette interrogation, c'est la pire des interrogations. Je crois que Jésus n'a jamais subi une interrogation aussi terrible que celle-là. Parce que c'est un reproche que Judas fait à Jésus. C'est un reproche. Jésus est complice, puisqu'il se tait. Il aurait dû arrêter cette femme avant que le parfum soit entièrement répandu sur les pieds de Jésus. Il aurait dû l'arrêter. Jésus ne l'a pas arrêté, donc il est complice. Et donc Jésus, en faisant ça, manque d'amour pour les pauvres. Est-ce que ce n'est pas cela qui blesse le plus le cœur de Jésus ? Lui qui est venu pour les pauvres, lui qui est venu pour les malades, lui qui est venu pour les infirmes. Il manque d'amour pour les pauvres. Il dit cela, alors ça c'est le théologien qui réfléchit, hein. Il dit cela, non qu'il eût souci des pauvres. Et ça, Saint Jean, en disant ça, nous montre bien le regard de revendication de Judas. Il revendique la justice, mais pas par amour pour les pauvres, mais pour sa caisse, à lui. Il dit cela, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur et que tenant la bourse, il emportait ce qu'on y mettait. Et ce parfum versé sur les pieds de Jésus, il ne peut pas l'emporter. Il est perdu. Je vous dis, il est vain, pas de finalité. Parce qu'une réalité est vaine quand elle n'a plus sa finalité. Et on voit très bien, et c'est l'interrogation, pourquoi c'est par rapport à la finalité même de ce parfum. Il ne comprend pas la signification de ce geste et la grandeur de ce geste. Il accuse Jésus. Il mesure la dimension du cœur de Jésus à son regard. À sa manière de regarder les choses. Jésus dit donc, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Car les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Jésus répond à Judas pour défendre, justifier le geste de cette femme. Le geste de cette femme est vraiment un geste prophétique. Un geste qui relève de l'Esprit Saint. Elle a bien fait. C'est un geste d'amour. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Elle anticipe. Et voyez bien, là, on comprend l'unité profonde de cette dernière semaine. Ce geste prophétique de Marie annonce le mystère du sépulcre et la dernière semaine se termine au sépulcre, la liturgie du sépulcre. Ce geste prophétique pour montrer son amour. Ce que Jésus attend pour le mystère du sépulcre, c'est un amour d'action de grâce, une surabondance d'amour. Plus Jésus descend bas dans son amour pour nous, plus il accepte de porter toutes les conséquences du péché, plus il réclame de nous, comme geste d'action de grâce, de l'accompagner voyez, le mystère de la compassion de Marie par rapport au mystère du sépulcre. C'est dès le point de départ de la dernière semaine. Vous savez bien, il y a trois grands aspects du mystère de la compassion. L'agonie, la croix, le sépulcre. Et c'est important de comprendre que dès le point de départ de cette dernière semaine, il y a ce geste de Marie, la sœur de Lazare. Si la sœur de Lazare fait ce geste, l'intention du cœur de Marie, la mère de Jésus, va encore beaucoup plus loin. Et c'est cette surabondance d'amour qui enveloppe le mystère du cadavre divin du Christ. Ce premier moment, ce geste prophétique, ce parent pris, prend toute sa signification par rapport au mystère du sépulcre. Pourquoi ? Parce que dans le mystère du sépulcre, Jésus connaît la suprême pauvreté, la plus grande pauvreté. Jésus peut recevoir ce geste d'amour de Marie à cause du mystère du sépulcre. On embaume le cadavre. Et personne n'est là pour dire que c'est un parfum d'un trop grand prix. On n'ose pas en face d'un mort. Rien n'est trop grand. Et Marie, sous la conduite de l'Esprit Saint, anticipe. Elle sait la pauvreté intérieure du cœur de Jésus. Parce que la pauvreté du sépulcre manifeste quelque chose de cette pauvreté du cœur de Jésus. Pour porter librement le mystère du cadavre. Nous, nous savons bien, la mort est une conséquence du péché. Donc nous ne choisissons pas. Nous l'acceptons et nous essayons de sanctifier notre mort, hein, en l'offrant d'avance. Jésus a choisi la mort. Et Jésus a choisi d'être dans cet état cadavérique. Et c'est pour ça que le cadavre du Christ exprime sa pauvreté suprême. Celui qui accepte n'être plus rien au milieu des hommes. Cadavre divin, enveloppé par ce parfum de Marie. Les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Jésus, là, fait comprendre à Judas l'empressement de Marie. Vous voyez, je crois qu'il y a les deux aspects. On pourrait dire qu'il y a un aspect de profondeur pour montrer et justifier le geste de Marie, et puis l'autre aspect plus descriptif, c'est la question du temps. Alors, c'est l'empressement. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. C'est le dernier repas de Jésus avec ses amis. Alors, dans le dernier repas, c'est normal qu'il y ait cette émotion excessive d'amour. C'est un remerciement ultime et dernier. Et là encore, vous voyez, quand on est en face d'un adieu, Alors, tout prend une signification nouvelle. Et certains gestes qui peuvent paraître excessifs en temps normal ne le sont plus en face d'un adieu. Et je crois que Jésus prend, vous voyez, la double défense, les deux aspects de la défense, et ça c'est très très beau, par rapport à Marie, pour bien montrer combien elle est conduite par l'Esprit Saint et combien elle devance. La profondeur de son geste, c'est pour la sépulture. La hâte de son geste, Jésus n'est plus là pour peu de temps. C'est un mystère d'adieu. Et dans un mystère d'adieu, alors on comprend qu'on veut, dans un dernier geste, montrer tout son amour, toute la force de son amour pour quelqu'un qu'on aime. Comprenons que si constamment Saint Jean, dans son évangile, montre les oppositions des pharisiens à l'égard de Jésus. On a comparé Jésus à Jacob. On l'a comparé à Abraham. On l'a comparé à Moïse. Et chaque fois, Jésus a montré qu'il était avant. Je crois que la comparaison la plus dure, c'est celle de Judas, réalisée ici, pour le cœur du Christ. Mettre une opposition dialectique entre Jésus et les pauvres. Comme si Jésus prenait la part des pauvres. Comme si l'amour pour Jésus, les pauvres nécessairement en pâtiraient. Si on aime trop Jésus, on aime moins les pauvres. Vous savez, c'est quelquefois ce qui arrive, hein, certains petits raisonnements arrivent comme ça. Ah, vous êtes trop pieux, alors votre devoir d'État. Vous aimez trop Jésus, vous consacrez trop de temps et votre devoir d'État. C'est des petites oppositions tacites, hein, qui ici sont mises alors en pleine force. Et c'est un disciple du Christ qui fait cela. Un des 12. Qui a suivi Jésus pendant ces 3 ans. C'est lui qui attaque de la manière la plus pernicieuse. En faisant cette opposition entre Jésus et les pauvres. C'est pour ça que je crois que c'est cela qui a blessé le plus le cœur de Jésus. Parce que ce qu'il y a de plus vulnérable dans le cœur de Jésus, c'est ça, son amour et sa miséricorde pour les pauvres. Et de voir que c'est cela que le démon, à travers Judas, attaque. C'est pour que Jésus expérimente une nouvelle pauvreté. Un petit peu, voyez, comme Jean-Baptiste a connu une nouvelle pauvreté avant de découvrir l'agneau, je dirais, ici, on nous montre que Jésus découvre une nouvelle pauvreté dans son expérience, dans sa sensibilité d'homme. Il découvre une nouvelle pauvreté avant d'être celui qui sera sur la croix et qui aura le cœur blessé. Jean-Baptiste a connu une nouvelle pauvreté en voyant que son témoignage ne portait pas, n'était pas efficace vis-à-vis des lévites et des prêtres qui venaient de Jérusalem. Et Jésus ici connaît une nouvelle pauvreté dans son cœur. C'est que ses apôtres, en Judas, n'ont pas compris. Sa tendresse extrême et son amour extrême pour les pauvres. Et on le blesse là, dans son amour pour les pauvres, comme s'il y avait un certain égoïsme dans le Christ, un égocentrisme. Alors vous comprenez tout de suite que c'est très important pour nous de voir que la dernière semaine commence par cette attitude de la dialectique du démon. La dialectique suprême du démon, c'est d'opposer Jésus aux pauvres. C'est de ne pas accepter que Jésus est le sauveur des pauvres. Et que Jésus est venu en premier lieu pour les pauvres. Et c'est de mettre cette opposition. Vous voyez tout de suite comment nous pouvons saisir certains aspects actuels que nous connaissons bien. Une des luttes très subtiles du démon. Nous avons tous vu certains, et quelquefois parmi les disciples du Christ plus proches et assez proches, qui en raison d'une générosité pas suffisamment transformée par la charité, ont mis une opposition entre l'Église et les pauvres. Et se sont laissés prendre par l'idéologie marxiste à cause de ça. Ils ont quitté l'Église. Je crois que ça doit être éclairé par ce chapitre 12, par ce repas de Béthanie. Et tout le contexte est assez extraordinaire, parce que c'est à Béthanie. Béthanie, c'est quand même un lieu que Jésus aime beaucoup. Béthanie, ce n'est pas n'importe qui à Béthanie. Marthe et Marie et Lazare, c'était des amis très chers de Jésus. C'était des gens qui n'étaient pas des pauvres. Pour avoir ce parfum en réserve, voyez bien ce que ça représente. Dans tout ce contexte, et je crois que ça joue. Judas devait être dans une sombre colère, certaine irritation dans tout ce contexte. Il n'a pas aimé beaucoup d'être là. Ça joue ça, d'un point de vue sensibilité. Alors cette espèce d'affirmation, d'accusation, d'interrogation. Il n'accuse pas, il interroge. Mais derrière l'interrogation, il y a une accusation. Il a fallu que, de fait, Judas ne puisse plus arriver à se contenir. D'habitude, il reste silencieux. Et il ne dit pas ce qu'il pense. Et là, subitement, il le proclame. Aux yeux de tous. Et l'attitude de Jésus vis-à-vis de lui, c'est de rétablir un ordre de sagesse. La manière dont Judas conçoit certaines relations humaines et la manière dont Jésus, lui, les voit. Je crois que cette correction de Jésus à l'égard de Judas, qui est nette, a dû aussi hâter les événements. Judas n'a pas accepté la correction. Et par le fait même, n'y a qu'une seule manière d'y répondre. Il pensait déjà, c'est bien évident qu'il devait penser déjà. Mais autre chose est d'y penser, autre chose est d'exécuter. Alors c'est après que de fait, il y a eu chez lui la décision, la voie suivante où nous voyons apparaître Judas, chapitre 13, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, de Simon, fils de Simon, le dessein de le livrer. De sorte que je crois, puisqu'il avait déjà, donc c'est avant, et là on ne le signale pas, donc entre deux, Judas cède à la tentation du démon de livrer Jésus. Et je crois que c'est parce que Judas n'accepte pas cette correction fraternelle. Et Jésus était obligé de la faire. Si Judas n'avait rien dit, Jésus n'aurait rien dit. Et Jésus était obligé de la faire parce que Judas la proclamait. C'est lui qui a obligé Jésus de rectifier, de répondre. C'est une réponse. Il n'y a pas d'initiative du Christ. C'est une réponse. Et c'est pour ça que tout de suite, vous voyez, la dernière semaine commence avec quelque chose de tragique. Dans un repas d'action de grâce, le jugement de Judas est terrible. Vous comprenez? Remerciez Jésus d'avoir redonné la vie à son frère. Il s'agit de montrer, de manifester combien remercie Jésus. Rien n'est trop grand pour manifester cela. Dans l'amour, rien n'est trop grand. Ce n'est rien, ce parfum, comparativement à l'intensité d'amour qui anime le cœur de Marie. Mais si on supprime l'amour, on ne voit plus que la valeur du parfum. Alors ça paraît monstrueux. Alors, on voit tout de suite le drame. Il y a quelque chose de tragique là. Puisque de fait, ça va s'achever sur le mystère du sépulcre. Marie ne pouvait pas savoir que par son geste, elle précipitait les événements. Et que les événements allaient rapidement. La dialectique dans l'ordre du mal. Et ça, ce serait très intéressant de la saisir dans cette dernière semaine. Donc, première initiative de Jésus. Deuxième initiative de Jésus. La première initiative, c'est à l'égard des apôtres, à l'égard de Judas, donc. Du moins, pas initiative, mais première réponse de Jésus, je veux dire. Première réponse de Jésus à l'égard de Judas. Deuxième réponse de Jésus à l'égard de son peuple. La foule nombreuse des Juifs connut donc que Jésus était là. Il ne pouvait pas connaître ce qui s'était passé. Ce drame est interne. Et ils vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. Et on comprend très bien, on devait beaucoup parler de Lazare. Le ressuscité. Si vous étiez un ressuscité, c'est évident, les gens viendraient voir, puis ils viendraient demander qu'est-ce qui s'est passé. Et les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare. parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Cette petite remarque est très importante, parce que Jésus ne veut pas que Lazare meure à cause de lui, puisqu'il vient de ressusciter. Alors ça explique comment, à partir de ce moment-là, Jésus n'a plus aucune défense à cause de cette décision. Jésus ne peut plus avoir une attitude de défense et fuir, puisqu'autrement, c'est Lazare qui en porterait les conséquences. Donc, Jésus est lié, il est obligé d'entrer dans une passivité. Et les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare. C'est aussi très important pour entrer dans les intentions des grands prêtres. Ils sont tellement pris par la jalousie. Jalousie religieuse, fraternelle, ici il s'agit d'une jalousie pontificale. Il ne faut pas l'oublier. Toute l'écriture commence par la jalousie fraternelle et elle se termine par la jalousie pontificale. Et à travers toute l'écriture, la jalousie est toujours là pour nous montrer que la jalousie conduit à l'homicide, au fratricide, et à faire disparaître celui qu'on ne peut pas accepter qu'il passe devant nous, qui est quelque chose de plus que nous. Les grands prêtres ne peuvent pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui passe devant eux au point de vue religieux. Ils auraient accepté un Messie qui soit docile aux grands prêtres, et qui soit en référence à eux. Un Messie qui serait venu demander des conseils aux grands prêtres. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Or, de fait, Jésus apparaît dans une autonomie, une liberté extrême. Ça, l'évangile de Jean nous montre bien la liberté de Jésus. Ce serait du reste très beau à relever à travers tous les évangiles, et spécialement dans l'évangile de Saint Jean, la liberté du Christ, cette liberté religieuse de Jésus, cette liberté dans une docilité plénière à l'égard de son Père, dans un désir de faire pleinement sa volonté, mais cette liberté qui vient de son amour. Et ici, Jésus est comme lié par sa charité fraternelle. On ne peut pas accepter que les grands prêtres puissent tuer Lazare. Les grands prêtres n'ont rien contre Lazare. Le seul crime de Lazare, c'est d'avoir été ressuscité par Jésus. Et c'est pour ça qu'il doit disparaître, parce qu'il est un témoin vivant. Parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit au-devant de lui. Ils poussaient des cris, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » On est en présence, j'allais dire, du dernier cri, du dernier appel du peuple d'Israël à l'égard de Jésus. Ce peuple qui voit la résurrection de Lazare est saisi profondément d'admiration, de reconnaissance. C'est encore une reconnaissance, c'est encore une action de grâce, tout à fait différente de celle de Marie, mais c'est encore une action de grâce de proclamer Jésus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. On proclame la royauté de Jésus sur Israël. On proclame qu'il est bien le Messie qui devait venir et qui doit être roi. Car il est capable de ressusciter un mort. Trouvant un petit âne, Jésus s'assit dessus. Selon qu'il est écrit, sois sans crainte, fille de Sion. Voici que ton roi vient assis sur un petit ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas d'abord. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, alors il se souvint que cela se trouvait écrit à son sujet. Et que cela, on l'avait fait pour lui. C'est aussi très intéressant, ça, la remarque de Jean. Parce que quand Jean ne fait pas de remarque, ça prouve justement que les apôtres ont compris directement. Tandis qu'ici, Jean fait son mea culpa, comme Jean-Baptiste. Et moi non plus, je ne le connaissais pas. Et Jean reconnaît qu'il n'a pas compris du tout ce geste de Jésus. Ils ont dû être très étonnés de voir ce geste de Jésus. Jésus qui va au-devant de cette foule. Je ne crois pas que Jésus allait souvent sur le petit d'une ânesse. C'est le retour à la vie de Nazareth, ça. Sur un petit âne, oui. Quand les apôtres étaient aussi dessus. Mais ce geste, plein de délicatesse, plein de douceur, ce geste qui reprend la prophétie de Zacharie, qui annonçait la royauté du Messie, pour montrer sa douceur. Montrer sa petitesse, son humilité. Jésus fait ce geste. Il répond à cette foule. Alors voyez, là encore, en mettant en parallèle, pour mieux comprendre la signification de cette réponse de Jésus, ce que nous voyons à la fin du chapitre 6. Ou plus exactement pas à la fin. Après le miracle de la multiplication des pains, Jésus donc, connaissant qu'on allait venir et l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne tout seul. Jésus sait ici qu'on vient au-devant de lui pour le proclamer roi. Et Jésus va au-devant de cette foule. C'est très important, ça, vous voyez, pour que on ne comprenne pas matériellement les gestes du Christ. Et qu'on essaie de comprendre les intentions du Christ et non pas l'aspect matériel. Quand on prend l'aspect matériel de l'Évangile, on tue l'esprit. La lettre tue. On doit prendre l'intériorité, les intentions profondes de Jésus. Parce que là, Jésus fait deux gestes qui sont extérieurement en contradiction. D'un côté, il s'enfuit seul au désert. De l'autre côté, il répond. Alors pourquoi? Pourquoi cette conduite inverse? Vous allez me dire, ah, là on était au début de sa vie apostolique, il ne voulait pas mener sa vie apostolique comme roi, ici on est à la fin. Oui, c'est très vrai, c'est très juste. Jésus peut, dans la dernière semaine, où il ne condamne personne, le laisser la foule le proclamer roi. C'est assez curieux, ça aussi c'est intéressant pour signaler où nous en sommes. La fête du Christ roi, c'est pas très ancien dans l'Église. La proclamation du Christ roi. Alors on peut dire c'est démodé, si vous voulez, Jésus n'a pas dit que c'est démodé. Il est allé au-devant sur le petit d'une ânesse. C'est curieux. Et c'est à la fin, vous voyez, à la fin de sa vie. Il y a des tas de signes comme ça, si on essaie de comprendre la conduite de l'Esprit-Saint. Et c'est vrai qu'il n'a pas accepté qu'on le proclame roi au chapitre 6. Alors je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Parce qu'au chapitre 6, on voit très bien ceux qui ont pris du pain, ce pain miraculeux, et qui en ont mangé tout leur sou, avec un seul désir, c'était de mettre la main sur Jésus pour avoir tous les jours du petit pain frais. Pour avoir ça tous les jours, sans travailler. Merveilleux, un Messie qui nous donne des petits pains frais tous les jours, sans qu'on travaille. Alors on est tous d'accord. Là, c'est bien évident. Ici, c'est en face du miracle de la résurrection de Lazare. Un peu plus noble, un peu plus grand. Cette foule proclame Jésus roi devant ce signe. Et cette foule proclame Jésus roi face aux grands prêtres qui ont décidé de le tuer. Et donc courageux pour cette foule. Je sais très bien, c'est un dernier acte de courage. Et Jésus est ému devant cela. Cette foule touche le cœur de Jésus, puisque Jésus répond, comme le geste de Marie a touché profondément le cœur de Jésus, cette foule qui vient au-devant de Jésus et qu'il proclame roi, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël, a touché le cœur de Jésus. Voyez, quand vous proclamez Jésus roi, vous touchez le cœur de Jésus. Si vous le proclamez roi, non pas pour mettre la main sur lui, et alors à ce moment-là, évitez de travailler. Jésus est touché. Et je crois que c'est la vraie raison. C'est qu'entre cette foule et le cœur du Christ, il s'est lié un nouveau lien. Cette foule pauvre au plan spirituel, puisque ces grands prêtres ne sont plus dans une recherche de vérité. Cette foule pauvre qui accepte d'être pauvre proclame Jésus roi. Et Jésus, devant cette pauvreté nouvelle de cette foule qui accepte de se séparer de ses autorités religieuses, Jésus est ému. Et Jésus va au-devant. Il répond.